radiocultura.com.
83-84. C'est à ce moment-là que la convention, c'est juste après les élections, la réélection de Pinatel, le contexte politique. Le deuxième, et c'est le plus important, c'est effectivement, une fois qu'on a le bébé, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend. Et c'est bien que des associations différentes veuillent y avoir, mais comment on va essayer de créer une synergie ensemble pour pouvoir faire fonctionner la baraque. Et surtout, dès le départ, ce qui nous a paru à l'époque extrêmement important, c'est d'aller vers au moins la professionnalisation d'un poste pour pouvoir permettre à ces différentes équipes de commencer à fonctionner. D'entrée de jeu, ça on va le poser en termes sur le pré-projet, c'est dit de manière extrêmement claire, précise, voilà. Moi, pour la petite histoire et anecdotique, et ça vous le gardez pour vous simplement, moi je prends une année de dispo parce que ça faisait déjà 4 ou 5 ans aussi qu'avec les autres de travailler sur ça, que ça m'intéressait beaucoup de pousser le champignon jusqu'au bout. Et grosso modo, je consacrerai cette année à organiser les choses avec Philippe notamment et les autres, qui n'étaient pas eux libérés de leur temps, hein, ils venaient quand ils pouvaient, et c'était déjà beaucoup, pour pouvoir mettre les choses en place ici. Et en fait, on rentrera ici en 84. C'est-à-dire que eux faisaient le boulot, lui faisait le boulot au niveau de la mairie pour pouvoir effectivement créer les conditions que l'interassociatif soit créer les conditions de la convention d'occupation des lieux.
C'est sûr.
Bon, les travaux par la commune, par le plan ville moyenne étaient réglés. Bon, c'est une chose. Mais ensuite, dès l'instant où nous, on se préparait à intégrer la maison, il fallait qu'effectivement, la mairie étant propriétaire du lieu, il fallait qu'on définisse avec eux une convention d'occupation suivant les critères qui, effectivement, nous intéressaient à l'époque pour pouvoir occuper les lieux. Donc, Capot faisait un boulot de son côté en tant que conseiller municipal chargé de la culture. Nous faisions le boulot de préparation du terrain pour pouvoir apporter les éléments de projet et autres qui permettent de signer une véritable convention d'occupation de ce lieu. Ce qui va arriver ensuite par la délibération du conseil municipal officiel
c'est
qui va
acter ça. Extrait de délibération du conseil municipal du 17 juin 83.
Ah, tu vois, c'est en 83.
Donc là, c'est le conseil municipal qui vote. Bon, monsieur Destevert, rapporteur, bon. Après avoir précisé certains termes, le conseil municipal approuve le texte de la convention. Toutefois, il complète ce texte par l'article suivant. Il est entendu que le parc des Yarcia restera toujours jardin public et sera à disposition de tout le monde. D'autre part, le conseil municipal décide que le siège des 8 associations faisant partie de l'interassociatif de Yarcia se tiendra bien à la maison Yarcia. Fait et délibéré les jours et mois de la liste dessus le maire, 17 juin 83.
Donc les 8 associations fondatrices, c'est celles que vous avez dans le document noir, là, la première brochure qu'on a faite, ce sont les 8 de départ. C'est la base. Et en fait, on signe la première convention avec ça. C'est-à-dire que Yarcia se fait d'entrée de jeu. En fait, l'interassociatif prend le nom de Yarcia, le nom de la maison. Chaque association est autonome.
Oui.
Et l'interlocuteur auprès de la mairie par rapport à la maison, c'est l'interassociatif Yarcia, qui d'entrée de jeu est créé, si tu veux, par des représentants de chaque association. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et Soukaitsa, c'est l'une des 8 associations. Alors, l'activité, si tu veux, juste de 80 à 83, on sera beaucoup dans l'organisation des spectacles. Et on va basculer assez rapidement après l'organisation de spectacles, on va le laisser plus ou moins tomber. Et on va basculer sur les premières années d'ici, sur ce qu'on va appeler le centre aéré. C'est-à-dire qu'on. Pour faire court, je ne veux pas dire qu'on était quelque part une préfiguration d'Oudalikou, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on faisait un centre aéré, association sous prétexte, organisation de spectacles, Chumi Nartola, Benito Lechoni, plus Coral Lasparin, je me souviens de ça à l'église. Veillé à Yarcia, Steve Warin, Amaya, Brenda Wooton, 84, c'est le début ça. Plus organisation d'activités pour tous les enfants de 6 à 13 ans, les mercredis après-midi à Yarcia. À ce jour, 50 inscrits et participants aux activités. Tu as été dedans, bien sûr. C'était les deux activités, en fait. Et quand on a intégré ici, en fait, ce qui s'est passé, il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire, moi qui avais créé aussi sur Kaitsa et tout ça avec les autres, bon, je me suis plus retrouvé dans l'organisationnel des Yarcia ici, très rapidement. Donc, j'ai pu moins me batailler pour organiser les spectacles à droite et à gauche. Et par contre, ce qui a complètement ici, c'est raffermi. C'est pendant 2 ou 3 ans, en tout cas, même 4 ans, je dirais, les activités du mercredi après-midi ici. C'était bourré de monde, quoi. On était tout le temps 30-40 mômes ici. de 2h à 5h les après-midi. Quoi. Et les tables viennent de ça. C'est-à-dire que nous, les tables, en fait, comme on était très bien vus à l'époque, il faut savoir que celle qui s'occupait de la cave, c'était une sœur à Claude Laval. Je me souviens très bien. C'était sa sœur qui s'occupait, qui était dans les bureaux ici de la cave, et qui nous a, par deux ou trois reprises, à l'époque, c'était une subvention quand même assez importante, 8 000 balles, 10 000 balles, pour pouvoir entrer du matériel, toujours. C'était l'entrée, c'était le centre aéré, mais nous on savait très bien que si on faisait rentrer du matériel comme ça, ça servait à tout le monde. Donc c'était aussi une commune pour pouvoir faire rentrer du matos pour tout le monde. Voilà, en termes d'histoire, pour faire résumer, il y a, en fait, parallèlement, pour faire un coup, 75-80, c'est Semaine culturelle basque d'Asparin et les premières ruptures avec les jeunes basques. Pour rester dans le contexte culturel, hein, le contexte de la maison et de son acquisition, vous l'avez eu par Caco. 80-83, c'est l'époque glorieuse de Sourkaïtsa en termes d'organisateur de spectacle. Avec, je tiens beaucoup à ça, déjà une ouverture sur des artistes extérieurs. Sur deux plans, pour nous, ça va être extrêmement formateur. J'ai d'ailleurs des préparations manuscrites des spectacles. J'ai le budget ici. Du spectacle, c'est assez rigolo. Amaya Pascal Gagne, déjà à l'époque, hein. Ils étaient ensemble, à l'époque, ils étaient amoureux, c'était bien. Et Brenda Houghton, ça fait. Hein. Budget prévisionnel de la soirée, c'était quand même ça, en 84. Hein. Et budget de la soirée, 20 000 francs. Voilà. Sans subvention, il fallait quand même faire quelques spectateurs dans la salle pour que ça puisse rentrer. Bon, oui, c'était de la folie. Bon. Pour nous, un des lieux de formation extraordinaires par rapport à ça, ça a été les Amis de la chanson populaire de Pau. C'est l'époque où nous avons été à deux ou trois reprises voir les Amis de la chanson populaire à Pau, qui à l'époque organisaient sur Pau. Vous savez, en France, il y a par exemple les ATP, les Amis du théâtre populaire en France, qui sont nés du Festival d'Avignon et tout ça. D'ailleurs, on a été récemment joué à Nîmes, là, encore par les ATP. Et dans certaines villes de France, avant que les fameux zéniths, les grandes salles s'organisent, mais pour comprendre l'évolution dans les années langues de la culture en France, c'est très important de comprendre que ça vient de ces militants-là. C'est des passionnés de chansons populaires qui sont organisés complètement comme nous à la Somme, mais dans une ville qui s'appelle Le Pau et non pas Asparin, et qui font venir à l'époque des gens, moi, que j'ai été voir à Pau, c'est Igelin, c'est Paolo Conte, c'est Michel Jonas, c'est Francis Lalanne, bon, tout un tas de gens qu'on allait voir comme ça. Et donc on avait été voir ces gens-là pour savoir comment ils faisaient pour organiser les spectacles, etc. C'est l'époque où je découvre ce que c'est une vignette. Donc quand Michel Vivoux m'a dit « tu dois me faire des vignettes », je l'ai regardé comme ça en disant « mais attends, tu me parles de quoi ? Une vignette de vin que tu veux ?» Je comprenais rien ce qu'il me disait, rien du tout. Et ce qui était formidable chez les Amis de la chanson populaire et que j'ai découvert, c'est qu'à l'entrée du spectacle, ils mettaient le budget de la soirée affiché sur un paperboard. Tout ce que ça coûtait, c'était génial. Donc, c'était extraordinaire comme approche de l'éducation populaire. Ils mettaient à l'entrée du spectacle, les spectacles, ils organisaient au casino de Pau, tout ça. Hein. T'avais pas de zénith, t'avais rien en Pau. Hein. Donc voilà. Et je me souviens très bien du spectacle Jonas, par exemple, où tu vois le paperboard à l'entrée du casino, un grand paperboard, où ils mettaient cachet, ça coûte tant, sono, ça coûte tant, location de la salle, ça coûte tant, et tu savais combien te coûtait la soirée. Et nous, on s'était mis à faire ça ici, hier. Quand on a fait les premiers concerts, on mettait à l'entrée de la soirée, on mettait le budget de la soirée pour que les gens se rendent compte de combien ça nous coûtait. Ça, c'était vachement intéressant en termes de formation, en termes d'approche. Tiens, putain, regarde ça. Fond et Val. Je te garantis que le lendemain, à hier, après le passage de Fond et Val, moi, je regardais les gens de travers, hein, parce que certains... Même le père Barbier m'avait dit « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ça ? Oh la quoi, qu'est-ce qu'il y a beau, même ?» C'est bon. Bon, mais c'est tout ça, c'est ce contexte-là qui est extrêmement intéressant, je crois, aussi à développer, à comprendre. Alors, nous, à Asparin, on a toujours eu une position un petit peu dans le monde avert-salé, tout ça, un petit peu à part. C'est-à-dire que, dans un monde avert-salé qui pensait qu'il fallait que simplement on reste entre nous, on était assez mal vus, quoi. Enfin, c'était pas... Même Sapeta Chilotique à l'époque, le monde avait salé, on avait eu beaucoup de critiques en disant c'est pas Sapeta salé. Et oui, mais on avait fait un spectacle surtout social. C'était intéressant, c'était vivant, c'était bien déjà. C'était assez passionnant, quoi. Et évidemment, quand on s'était mis à faire venir nous Brenda Wooton, nous Julos Boca, nous Fonteval, ces machins-là, alors on drainait à hier et à Sparé un public qui n'était pas forcément bascophone, mais venait voir aussi des Basques, ce genre de trucs. Mais ce public francophone venait voir aussi Lerchundi ou Itots ou d'autres.
Radiocultura.com